Having kept us to see this day that we have the privilege of meeting.
Nous remercions le Seigneur de nous avoir accordé la santé jusqu'à maintenant et aussi de nous accorder cette occasion de nous rassembler encore une fois autour de sa parole. Nous pensons à tous ceux qui sont malades. Nous les recommandons au Seigneur qu'il puisse les entourer, leur redonner la force et les rétablir. Et que les familles puissent recevoir une grâce particulière de la part du Seigneur pour prendre soin de ces malades. Et c'est un temps où nous avons particulièrement besoin de la grâce du Seigneur. Nous voulons aussi nous souvenir de ceux qui, celles qui sont sortis aujourd'hui, qui sont partis pour aller annoncer l'Évangile, et que nous puissions nous souvenir d'eux en prière, et que le Seigneur soit avec eux. Mais nous sommes reconnaissants aussi pour tous ceux qui sont avec nous ce matin, et nous avons même des visiteurs parmi nous que nous souhaitons saluer parce qu'ils sont d'une grande aide, une aide particulière dans leur domaine, chacun dans leur domaine, pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu.
So shall we pray together?
Alors nous voulons prier ensemble. Seigneur, nous te remercions de pouvoir nous abandonner complètement à toi. Seigneur, que tes voix puissent devenir nos voix. Malgré les difficultés, les épreuves, que notre foi puisse resplendir, que notre amour puisse grandir, qu'il soit toujours plus intense, encore plus qu'auparavant. Seigneur, nous te prions pour que ta bénédiction repose sur la parole, sur ce que nous allons lire. Et Seigneur, nous avons besoin, nous sommes complètement dépendants de toi et que tu puisses accorder que ce qui te plaise puisse être prononcé et proclamé ce matin. Que ton esprit puisse toucher nos cœurs comme seul toi, Seigneur Jésus, tu peux. Amen. Il y a deux passages que j'ai examinés et que j'ai envisagé partager ce matin. Et j'espère que vous ne verrez pas ces passages comme étant contradictoires, mais qu'au contraire, ils puissent, ces deux passages, ces portions d'écriture, puissent nous servir à comprendre et à saisir ce que Dieu, ce que le Seigneur veut pour nos vies. Alors le premier passage se trouve dans le livre d'Ésaïe 5, verset 1er. Donc le livre d'Ésaïe, chapitre 5. Je lis dans la version du Semeur. Je veux chanter pour mon ami, le chant de mon ami au sujet de sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Verset 2, il encercla le sol, en enleva les pierres et il y mit des plants de choix. Et il bâtit une tour de guet au milieu de la vigne et il y creusa un pressoir. Il attendait donc de sa vigne de beaux raisins, mais elle n'a produit que de mauvais raisins. Donc c'était Ésaïe 1, 5, chapitre 5 à 2. Donc Marc 12, deuxième passage. Donc Évangile de Marc, chapitre 12. Verset 5. Pardon, verset 1. Donc, Évangile de Marc, verset 1, chapitre 12, verset 1. Puis il se mit à leur parler en utilisant des paraboles. Question de Jésus. Un homme planta une vigne, l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et construisit une tour pour la surveiller. Après cela, il la loua à des vignerons et partit en voyage. Verset 2, au moment des vendanges, il envoya un de ses serviteurs au vigneron pour recevoir la part du produit de sa vigne qui lui revenait. Donc Marc 12, 1 et 2. Ce passage de Marc, c'est donc un passage où Jésus s'adresse particulièrement à ceux qui s'occupent de la vigne, aux serviteurs. Et à la fin de cette parabole, il prononce un jugement terrible à l'encontre des serviteurs. Maintenant, on peut se poser la question, qui est celui qui plante la vigne? Est-ce que nous réalisons que c'est lui qui nous a aimés? Alors, est-ce qu'en retour, tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur? Vous, parents, est-ce que vous l'aimez? Père, mère, peut-être y a-t-il eu un temps dans le passé où tu as aimé le Seigneur, et est-ce que cet amour est toujours présent dans ta vie? Ou n'est-ce plus que histoire et que ce n'est plus le cas aujourd'hui? Tu avais ce désir de planter cet amour pour le Seigneur dans tes propres enfants. comme Ésaïe le dit, je veux chanter pour celui, pour mon ami, pour celui que j'aime. Peut-être avais-tu un chant dans ton cœur pour cet ami. Est-ce que ce chant résonne encore ? Ou est-ce que ce chant a été éteint ? Peut-être tu as observé des personnes qui t'ont déçu. Peut-être des personnes qui ont détruit ton appel pour servir le Seigneur. Mais pourtant, tu continues à prétendre, tu dis que tu as un appel. Peut-être même tu peux témoigner en disant, voilà l'appel que le Seigneur m'a donné. Mais peut-être certaines personnes ont terni mon appel, ont terni ma réputation, mon nom, et alors ton amour pour le Seigneur et ta terre. Et tu n'es préoccupé maintenant que par les fautes des autres. Et peut-être tu n'es affairé qu'à faire connaître à tout le monde comment ta réputation a été ternie, comment peut-être tu as perdu de l'argent à cause d'un tel ou une telle, ou comment tu as perdu ta communion avec un tel ou une telle. Et donc tu n'es préoccupé que par pointer les fautes des autres. Maintenant, ton chant est devenu un pleur, est devenu un chant des pleureuses, un chant funèbre. Alors pose-toi la question, est-ce que Dieu est là avec toi dans ces lamentations ? Ou est-ce que tu as laissé le Seigneur derrière toi ? Et le Seigneur n'est pas dans ses lamentations. Le Seigneur n'est pas dans tes chants funèbres. Mais nous louons le Seigneur pour les personnes qui, malgré les difficultés, malgré les souffrances et les épreuves, ont ce chant au sujet de la vigne, le chant de mon ami, comme il est mentionné au verset 1. Ils ont un chant au sujet de sa vigne. La personne voit l'œuvre de Dieu. Elle voit comment le Seigneur va et vient au milieu de sa vigne. Alors pose-toi la question, est-ce que ton chant s'est arrêté ? Est-ce que ton chant s'est asséché ? Alors pose-toi la question, qu'est-ce qui a asséché ce chant ? As-tu abandonné ton premier amour ? Et peut-être d'autres choses sont devenues plus précieuses, tu sont devenues plus importantes à tes yeux. Peut-être est-ce ton épouse, peut-être ton mari, mais lorsque tu t'es marié, rappelle-toi, quand tu t'es marié, tu as dit, Seigneur, que notre mariage puisse être un chant de louange aux yeux de tout le monde. Et tu l'as remercié à l'époque et tu l'as loué pour ton mariage. Alors, est-ce que tu as repris cela d'entre tes mains? Tu l'as arraché des mains de celui qui te l'avait confié et tu l'as repris, tu en as refait ta propriété. Et peut-être aujourd'hui, tu vis dans la peur, peut-être avec cette peur, ah, peut-être quelqu'un va me voler mon conjoint. Peut-être tu crains que l'accusateur, le menteur, parce que l'ennemi, l'accusateur a mis un esprit étranger en toi. Donc où est le gardien d'Israël? Que lui est-il arrivé? Tu es-il arrivé dans ta vie? Qu'est devenu ton témoignage? Malheureusement, aujourd'hui, tout ce que tu peux témoigner, c'est par rapport à tes anxiétés. L'amour que tu avais à une époque a été effacé. Cet amour a disparu. Ceux et celles que tu aimais quand le Seigneur t'a appelé, ces mêmes personnes sont maintenant tes ennemis, sont ceux que tu haïs. Et tes paroles sont telles que tu ne pourras pas te tenir devant Dieu et tu ne pourras pas rendre compte. Tu auras honte des paroles que tu auras prononcées, des paroles de jugement. Alors ne pense pas trop. Ne t'apitoie pas sur tes sentiments, sur ce qui t'arrive, mais concentre-toi sur ce chant que tu as eu dans le passé, sur cet amour pour cet ami que tu as eu, dont tu témoignais dans le passé. Et ainsi cet esprit de tromperie qui sort des ténèbres, cet esprit de tromperie qui vient te voler cet amour que tu avais pour cet ami. Et alors cela est remplacé par toutes sortes de sentiments. Qui t'emmèneront dans des chemins que tu n'as même pas connus dans le passé. Que tu ne savais même pas que de tels chemins existaient. Et cela vient aussi avec un esprit supérieur, un esprit orgueilleux. Oui, peut-être tu es anxieux, mais tu es pourtant séduit par celui. Tu es séduit par celui qui a lui-même chuté à cause de l'orgueil. Tous les efforts de celui qui t'a aimé lui qui est allé jusqu'au bout de lui-même, qui a tout donné pour montrer, pour pour montrer tout l'amour qu'il a pour toi. Et toi, en retour, qu'en est-il? Que fais-tu de cet amour? Qu'est devenu ton amour? Il est dit, il a cherché des plans de choix. Il attendait donc de sa vigne de beaux raisins, mais tu n'en produis que de mauvais. Mais il attend toujours, il cherche encore de bons fruits. Il attend de toi de bons fruits. Et tu es endetté envers lui. Tu lui dois quelque chose. Tu dois quelque chose au Seigneur. Il est dit, dans le passage de Luc, il est dit que le propriétaire a confié la vigne à des serviteurs. Peut-être tu vas me dire, ah, mais moi je ne suis pas un de ces serviteurs, je ne suis pas concerné. Mais peut-être tu es serviteur, en anglais il est dit locataire ou tu es surveillant des enfants que Dieu t'a donnés. Tu es surveillant ou tu as été confié la tâche de prendre soin de tes enfants. Quand ils sont nés, quelle était ta première pensée? Quelle était ta première prière? Et qu'est-ce que tu as investi dans tes enfants? Qu'est-ce que tu leur as transmis? Est-ce que ton amour est-ce que tu as travaillé à cela pour que tu puisses susciter une flamme, puisse susciter, maintenir, garder un feu dans leur cœur, ce même feu, cette même lumière dans leur cœur qui est aujourd'hui attaquée de toutes parts par toutes sortes de tentations et de choses qui veulent éteindre ce feu. Donc ce propriétaire qui a loué la vigne, qui a confié la gestion à un certain nombre de vignerons, il est dit, la loua à des vignerons et partit en voyage. Peut-être, si je peux me permettre de dire, que ce temps de Covid, cette épidémie de coronavirus est comme un temps où le propriétaire est parti en voyage et il a laissé la gestion, il a confié la gestion à ses vignerons pendant ce temps. Mais au moment des vendanges, le propriétaire envoie des serviteurs pour recevoir une part du produit de la vigne. Peut-être dans ta vie, il semble que Ta vie est un temps aride, sec. Peut-être considères-tu la vie de certains de tes enfants ou de tes enfants comme une période sèche, une période aride. Jésus aussi a eu ce genre de temps quand il est dit que l'Esprit l'a emmené dans le désert. Et alors Jésus a passé un temps d'épreuve intense. Nous savons l'histoire, nous connaissons comment le diable est venu vers lui. Et même avec la parole de Dieu, et le diable leur dit, il est écrit. Et Jésus a non, le diable a utilisé la parole de Dieu pour l'attaquer, pour attaquer Jésus. Alors, la question peut se poser, est-ce qu'il en est de même pour toi? Est-ce que tu prends toute parole que l'ennemi peut te présenter, qu'il utilise pour te faire tomber, te faire chuter? Peut-être, parfois, on t'apporte, on te présente des paroles et pourtant qui ne sont pas bibliques. Et tu tombes dans le piège, tu acceptes ces paroles, et alors tu te fais avoir. Timothée, Paul lui a dit ce qui est écrit dans la version King James en anglais, il est dit, Timothée dit, Paul dit à Timothée, il faut que tu discernes, que tu divises la parole, que tu discernes la parole. Il peut y avoir un temps où l'ennemi vient et vient avec une parole, peut-être même d'or, gravée dans la pierre, en disant « voilà la parole ». Et alors, il nous faut vraiment discerner. Et en version King James en anglais, il est dit, il te faut diviser, couper la parole. Donc, il nous faut discerner, on pourrait dire disséquer la parole pour savoir ce qui est juste. Donc, revenons à ce propriétaire, lorsqu'il revient de son voyage, il est revenu triomphant. Même le ciel a résonné d'une voix que certains pensaient être le tonnerre, mais quand Dieu a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », donc même les cieux ont reconnu Jésus. Alors, vous, enfants, est-ce que vous aimez encore celui qu'il vous faut aimer, celui qui a donné son souffle, qui a donné sa vie pour nous. Peut-être dois-je utiliser des exemples que vous pouvez comprendre. Jusque-là, peut-être j'utilise un langage qui est incompréhensible à vous, enfants. Je me rappelle, il y a de nombreuses années, quand moi-même j'étais jeune, et nous étions jeunes, mon grand frère venait juste d'avoir eu son permis. Et alors à l'époque, nous étions dans une voiture avec mon grand frère qui conduisait et nous nous sommes retrouvés avec un autre cousin. Et alors ce cousin leur dit « Quoi ? Ton père te laisse conduire telle voiture ?» Rappelez-vous, c'était une Mercedes. Et alors ce cousin a dit « Mon père à moi, lui, jamais il ne permettrait que je conduise sa voiture. » Et là je vois que toi, ton père, te laisse conduire sa voiture. Alors le secret, c'est que mon père à l'époque, notre père achetait toujours des voitures d'occasion, c'était pas des voitures neuves. Alors comme ça, il se rassurait, il pouvait prêter. Ne pense pas que si c'est une belle voiture, que c'est forcément une voiture neuve. Certaines personnes se contentent d'une voiture d'occasion. Peut-être qu'elles sont bien entretenues, elles brillent. Alors ne te laisse pas divaguer, ne laisse pas ton esprit divaguer et imaginer des choses qui ne sont pas la réalité. Peut-être tu penses que c'est une voiture neuve et c'en n'est pas une. Mais toi, enfant, si jeune, si on te confie un véhicule, alors cela veut dire que le propriétaire du véhicule te fait confiance et il a confiance que tu vas prendre soin du véhicule. Et peut-être même si tu d'apparence pas quelqu'un en qui on peut vraiment te confier, peut-être même il y a une réputation qui te suit ou on entend des histoires où un tel ou une telle avec les véhicules, c'est pas ça. Mais si le propriétaire veut démontrer son amour pour toi, son respect pour toi, alors il est prêt à te confier son véhicule. Alors est-ce que tu vas prendre soin? Est-ce que tu vas faire attention quand tu conduis? Tu n'accélères pas trop vite? Tu ne freines pas trop brusquement? Tu prends soin, tu fais attention à ta manière de conduire. Peut-être tu le fais quand il est encore là, le propriétaire, mais à peine tu es monté sur la colline en face de la mission. Et alors une fois passé la colline, tu n'es plus en vue. Alors tu appuies sur le champignon. Et tu vois jusqu'à quelle allure la voiture peut aller, quel est le maximum. Et peut-être tu dépasses dans un virage, tu ne vois rien, c'est limité à 60 et pourtant tu... Et peut-être tu arrives au dodane, il y a de nombreux dodanes sur nos routes, alors tu te dis tiens, je vais essayer, voir à quelle vitesse elle peut aller. Peut-être tu te dis, je suis tout seul dans le pick-up, il n'y a personne qui va aller taper la tête contre le plafond, contre le toit, alors allez, on va voir à quelle allure je peux passer sur le dodane. Alors souviens-toi, le propriétaire t'a confié. Et peut-être... Le propriétaire observe la voiture, il dit « Tiens, c'est bizarre, il est parti pour 5 km et il a vidé tout le réservoir d'essence. » Ou alors, une autre image, on t'a confié un tracteur, la conduite d'un tracteur. Peut-être on t'a dit, il faut le graisser, prendre soin, vérifier la pression des pneus. Et ainsi, on t'a confié le véhicule. Et alors, est-ce que tu prends soin de ce tracteur? Peut-être tu te dis, oh, mais de toute façon, il y a des gens pour creuser. Ils peuvent creuser à la pelle et à la pioche. Mais on t'a confié un tractopelle. Est-ce que tu en prends soin comme si c'était ta propriété, comme si c'était le tien? Alors, jeunes gens, vous ne savez pas comment votre père ou vos pères ont sué, ou peut-être les grands-pères ou les ancêtres ont sué pour avoir ces véhicules. Et toi, jeune, tu roules n'importe comment. Peut-être même tu roules sur une route secondaire et tu as un incident et tu as tellement honte de rapporter ou de rapporter cet incident. Tu es incapable de dire que tu as fait une bosse, rayure, que tu as raté le virage. Et peut-être tu ne réalises pas que ton père a sué 40 ans pour arriver à ce qui il est. Et peut-être même que tu arrives à ne rien dire et à échapper à réprimande de ton père et tu te dis, ah ben maintenant c'est son problème, s'il faut réparer le véhicule. Donc ainsi, à l'image de ce que nous avons lu, on t'a confié un véhicule. On attend que tu prennes soin de ce véhicule. Celui que tu aimes, ou est-ce que faut dire celui que tu aimais, parce que c'est peut-être ce n'est plus le cas, ou alors devons-nous dire celui qui t'aime, est-ce qu'il peut encore te faire confiance? Peut-être en est-il aussi comme cela au travail. Peut-être tu fais les choses quand le supérieur est là, est présent. Mais s'il n'est pas là, alors tu ne fais pas le travail. Peut-être tu prends les outils, tu prends des matériaux, tu te sers. Tu n'as jamais demandé l'autorisation. Et lorsque ta conscience te reprend, tu ne retournes pas en t'excusant, tu ne retournes pas pour t'excuser et dire à l'image de Zachée qui a été prêt, qui a dit « Si, j'ai fait du tort, alors je suis prêt à aller même jusqu'à repayer 4 fois. » Et ainsi, Zachée aussi se donnait les moyens ou le rappel de ne pas recommencer, parce que cela lui a coûté de réparer le tort. Peut-être dois-tu pointer au travail, tu dois respecter certains horaires, mais tu as toutes sortes de stratagèmes pour allonger les heures de travail et faire en sorte que tu sois payé plus que ce que tu ne fais toi-même, que tu ne fais vraiment. Mais alors tu oublies ce que la parole nous dit. Quand il est dit, par la mesure que tu mesures les autres, voilà la mesure qu'on utilisera pour te mesurer. Donc enfant, si vous vous moquez des autres, alors ne sois pas surpris si un jour les autres se moquent de toi. Peut-être ce jour-là, quand on se moquera de toi, alors tu seras sans défense, et alors ce sera une expérience bien douloureuse. Mais rappelle-toi, et c'est ce que le Seigneur a dit dans sa parole, ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Même si tu cherches la faute aux autres et que tu accuses les autres de l'injustice, de que ce n'est pas ta faute, rappelle-toi que le Seigneur attend des fruits de ta vie. Ne te préoccupe pas des autres, le Seigneur ne se préoccupe pas des autres, il attend des fruits dans ta vie. Il est dit, verset 4, « Alors le propriétaire leur envoya un serviteur. » Verset 2, pardon. « Au moment des vendanges, il envoya un de ses serviteurs au vigneron pour recevoir la part du produit de sa vigne qui lui revenait. » Alors la question se pose, t'es-tu substitué au propriétaire de la vigne? Est-ce que tu considères la vigne comme étant la tienne maintenant? Il y a des choix à faire dans la vie et tu fais ces choix en oubliant que tu n'es pas le propriétaire de la vigne. Tu n'en es que le loueur, le locataire, le serviteur qui s'occupe de la vigne. Peut-être tu fais tes choix qui ont des conséquences, qui ont des résultats pour ta vie entière, pour ton futur. Peut-être même pour ta vieillesse. Mais nous remercions le Seigneur pour des dirigeants, pour des anciens, pour des parents aînés dans notre assemblée, qui sont capables de nous donner des conseils, qui sont capables de nous reprendre quand il y a besoin, qui peuvent nous avertir en disant « Attention, ne fais pas ce mauvais choix. » Ne pense pas que le mariage, comme ils disent en africain, ce n'est que acheter un cheval. Je l'ai dit ces derniers jours à quelqu'un, c'est un temps où nous ne pouvons pas nous confier dans nos propres prières même. Parce que peut-être tu peux prier pour ton futur, mais ta prière est influencée par tes sentiments, est influencée par ton œil plein d'envie. Et alors tu es influencé, ta prière est influencée par ta propre chair. Nous savons ce que beaucoup de personnes n'aiment pas ce que nous appelons des conseillers spirituels. Ces personnes veulent n'entendre que leurs propres prières. Mais combien n'est-il pas merveilleux? Nous savons dans la parole, il est dit, « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je serai parmi eux. » N'est-ce pas une merveilleuse promesse? Nous ne reposons pas sur quelconque logis, sociologie, psychologie, toutes ces sciences logis. Non, nous nous basons et nous nous confions dans le Seigneur Jésus et dans son Esprit Saint. Mais si tu cherches le conseil et que tu es toujours entêté et que tu refuses d'écouter ce qu'on te dit, alors peut-être le dernier recours, c'est que tu ailles voir un quelconque psychologue, psychiatre ou je ne sais quelle autre personne qui te dira finalement la même chose. Pourquoi est-ce si compliqué d'aller voir quelqu'un qui est reconnu comme ayant été loin, comme ayant été reconnu, comme étant béni par le Seigneur, qui en a même le témoignage depuis des années? Pourquoi est-ce un problème d'aller partager tes fardeaux, partager tes joies? Et d'attendre de cette personne peut-être un autre éclairage. Peut-être tu viens, toi, jeune fille, avec et tu dis « Ah, je vois qu'un homme magnifique. » Et alors, qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir quelqu'un et lui dire « Peux-tu m'aider pour que je prie de la bonne manière, que je cherche la volonté du Seigneur de la bonne manière. » Et tu ne va pas ni voir un conseiller, ni, et au contraire, tu te reposes sur ta chair, et alors tu n'es pas prêt à entendre la voix du Seigneur, comme un Joseph, comme une Marie, qui ont su entendre la voix de Dieu, et les fruits ont montré que c'était vraiment le Seigneur. Donc, revenons à cette parole. Il y aura, rappelons-nous qu'il y aura au moment des vendanges, le propriétaire attend les fruits. Toi qui es chrétien, toi qui professes, qui te proclames comme étant chrétien, Peut-être tu as toutes sortes d'appels que tu prétends que le Seigneur t'a donné, en disant « le Seigneur m'a appelé à ci ou à cela », mais le critère, ce qui va différencier, c'est le moment de la vendange. Quels vont être les fruits ? Donc il est dit, au moment des vendanges, le propriétaire envoyé pour recevoir la part du produit, les fruits de sa vigne qui lui revenaient. Et si tu es un bon serviteur, si tu es un bon locataire, alors tu ne resteras pas enfermé à voir que tes propres souffrances, mais tu commenceras à voir les souffrances autour de toi, des autres. Paul a pu écrire « Je porte en mon corps les marques pour Christ ». Mais peut-être, toi, tu te focalises sur les marques des hommes qui t'ont blessé. Comment les autres t'ont trompé, t'ont fait du mal. Alors, est-ce que ta joie est en Christ ou est-ce que ta joie est dans la pitié de toi-même, dans tes lamentations et tes souffrances? Et qu'est-ce, quoi que ce soit que tu dis ou que tu écris, sache que le propriétaire de la vigne attend de toi des fruits. Et ne te compare pas si facilement à Job en disant « Ah, mais je suis comme Job, je souffre à cause, voilà, comme Job, c'est injuste, je souffre à cause de ceci ou de cela. » La souffrance que Job a endurée, et comment est-ce que je pourrais dire, c'était le fruit d'une demande du diable auprès de Dieu. Et le diable a eu la permission de la part de Dieu pour éprouver Job. Alors, Dieu lui a dit au diable, tu peux toucher Job, c'est bien, etc. Nous connaissons l'histoire, mais tu ne toucheras pas à son âme. Alors, si tu veux te comparer à Job, sache que tes souffrances soient vraiment le fruit de la volonté de Dieu. Et que même par tes souffrances, d'autres soient encouragés, d'autres soient édifiés. Et que ceux autour de toi puissent être émerveillés et puissent louer le Seigneur en te voyant. Et comme Job, ils puissent louer Dieu en voyant tes souffrances physiques même. Alors, as-tu oublié que Dieu t'a planté comme une vigne de choix ? Qui a eu les privilèges que toi, ou le privilège que toi as eu? Qui t'empêche de l'aimer de tout ton âme, d'aimer de tout ta pensée?
Oh.
mais le péché et la méchanceté, les mauvaises actions t'enlèveront ce chant. Si tu ne lui plais pas, alors tu vas plaire à un autre maître. Si tu ne portes pas du fruit, ce fruit qu'il attend de toi, alors tu produiras des raisins sauvages et amers, du fruit amer. Ne laisse pas le péché, aucun péché, t'arrêter, de te stopper dans ta vie, parce que cet endroit où le péché t'arrête deviendra un lieu de fermentation où le péché fermentera et grandira si tu t'arrêtes là. Et alors cette plante, ce vigne de choix sera alors mangé par les termites, sera mangé par les fourmis, et le fruit sera alors rabougri. Et il n'y aura pas de bons fruits dans ta vie. Alors, débarrasse-toi de ce poison dans ta vie. Débarrasse-toi de ces termites qui mangent les racines de ta vigne. Le Seigneur est celui qui cherche et qui attend du fruit. En saison, il viendra. Et même si tu portes de belles feuilles, peut-être tu as la bonne doctrine, peut-être tu as une doctrine basée sur la Bible, mais tu n'as pas de fruits. Et si c'est le cas, alors tu seras une déception pour le propriétaire de la vigne. C'est en son temps, en sa saison, quand le propriétaire a faim, comme quand Jésus est venu vers le figuier. Alors, quand il viendra vers ton figuier, va-t-il trouver du fruit ? Alors, il vaut mieux que la malédiction soit prononcée contre ton péché, contre tes péchés même secrets. Il vaut mieux que cette malédiction soit sur ça que sur ta vie et sur ton plan de vigne. Alors, va au bout des choses, prie, implore le Seigneur pour que sa malédiction repose sur le péché qui t'a infecté. Jésus est devenu lui-même malédiction pour porter nos péchés. Il a été pendu là sur la croix. Il a donné sa vie pour nous racheter, pour racheter notre vie. Et souviens-toi que nous ne nous appartenons pas parce que notre vie a été rachetée à un grand prix. Alors, parents, gravez ça dans leur vie, dans la vie de vos enfants. Gravez le fait que leur vie ne leur appartient pas. que la vie appartient au Seigneur et qu'il attend du fruit en saison et qu'un jour nous devrons rendre compte devant lui. Jésus a même utilisé des paroles dures, des paroles difficiles, qui sont difficiles à comprendre pour les hommes, les humains, lorsqu'il a maudit le figuier. Et il est dit dans cette parole que nous avons lue, si vous lisez la fin, qu'il a même mis à mort, il a fait exécuter les vignerons et confia le soin de sa vigne à d'autres qui sont fidèles. Alors, c'est un sermon, c'est une prédication déjà à part. On peut déjà faire une nouvelle prédication. Alors toi, ne perds pas cet amour que tu as pour le propriétaire de la vigne. Et si tu l'aimes, pourquoi alors est-ce qu'il ne peut pas y avoir de bons fruits? Ne t'accroche pas à quelque chose. Ne dis pas quelque chose qui te ferait être disqualifié par le propriétaire de la vigne. N'essaye même pas. Si c'est le cas, alors l'issue sera une vie sans fruits. Et ne pense pas que Jésus restera éloigné. Non, en saison, il viendra au moment des vendanges, il vient et il attend du fruit.
The Lord said of Joseph,
le Seigneur a dit de Joseph, qu'il était comme une plante de choix, une vigne de choix. Et pourtant, Joseph a eu une vie difficile, terrible. Et il aurait pu être une personne qui s'apitoie sur son sort, qui se plaint de ses circonstances, de ce qu'il doit endurer. Il aurait pu dire, personne ne m'aime, tout le monde me déteste, même ma famille me rejette. Mais parce qu'il avait une relation avec le Seigneur, avec Dieu, c'est ce qui a fait qu'il a eu une vie comme il a eu. C'est pour cause de cela qu'il a pu porter les fruits qu'il a portés. Joseph avait une relation vivante avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, Dieu nous a plantés, toi et moi, comme une vigne de choix, comme un plant de choix. J'aimerais terminer avec le point suivant. Verset 4 de Ésaïe 5. Qu'y avait-il encore à faire pour ma vigne pour que je n'aurais pas fait? Pourquoi alors que j'attendais un beau et bon raisin n'en a-t-elle produit que de mauvais? Alors examinons nos vies. Dieu a visité son Église, nous a visité, pas moi personnellement, mais Dieu a visité son Église et accordé un réveil. Il nous a donné le meilleur. Il nous a donné quelque chose que nous ne pouvons pas avoir de mieux. Il nous a accordé un réveil. Il a donné une vigne. Il a confié une vigne que d'autres, à notre époque, n'ont pas reçue. Lorsqu'il est venu aussi à l'Église primitive, au moment de la Pentecôte, ces personnes qui ont crié à Dieu, qui ont attendu son esprit d'être visitées parce qu'ils étaient fatigués avec ces fruits mauvais, avec ces fruits amers. Et alors Dieu nous a plantés dans cette vigne. Et alors, lorsqu'il examine ta vie, ma vie, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que le Seigneur dit ces mêmes paroles? Ou il dit, j'attendais un beau et bon raisin, mais il n'en a produit que du raisin sauvage, de mauvais raisin. Le Seigneur nous visite, le Seigneur te visite, peut-être tu t'en rends compte même pas. Peut-être le Seigneur passe son raisin au tamis parce qu'il veut sélectionner le bon raisin du mauvais raisin. Peut-être à tes yeux, tu te dis, non, mais moi je suis un bon raisin. Alors, comment en est-il? Qu'en est-il? Il nous a planté, toi et moi. Et la question se pose, qu'en est-il de notre vie aujourd'hui? Nous avons tellement entendu déjà. Vous savez ce que le Seigneur nous a appris, nous a enseigné dans son amour, ce qu'il nous a révélé. Qu'en est-il de nos vies? Qu'est-ce que nos vies sont-elles devenues? Et peut-être tu ne fais que murmurer, te plaindre, pourquoi elle dit ceci, pourquoi elle dit cela, et voilà ce qui te préoccupe. Et rappelle-toi, quand tu as grandi comme cette vigne, rappelle-toi de ton amour pour le Seigneur, combien c'était quelque chose de spécial qui te faisait avancer dans la vie jour et nuit. Il n'y avait rien qui ne soit trop grand ou trop difficile pour toi. J'aimerais répéter, le Seigneur nous a confié un réveil. Et par son esprit, il nous a visités. Alors, de quel type de vigne suis-je? Est-il arrivé à ce point dans nos vies où il peut dire, où il doit dire, j'ai tout fait? Qu'est-ce que je peux faire en plus? J'ai donné ma propre vie. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Pourquoi est-ce que cette vigne devient si sauvage? Et considère les fruits de ta vie. Rappelle-toi, tu ne te permettais pas d'être comme le monde, parce que tu disais, non, je suis une vigne de Seigneur. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Le plus proche du monde tu es, le mieux tu te sens. Et tu n'es plus ce vase pur. Et tu n'es plus cette vigne de choix. Tu n'as plus ces beaux raisins bons, mais tu es devenu un raisin amer. Peut-être tu te regardes dans le miroir, mais tu passes beaucoup plus de temps devant le miroir et tu regardes et peut-être tu ne dis rien, mais ton cœur réagit. Donc le Seigneur nous a plantés comme une vigne dans un sol fertile. Et alors, qu'est devenue ta vie? Qu'est devenue ma vie? Est-ce qu'il y a du fruit dans ma vie? Du fruit comme Dieu l'attend? Pose-toi la question, est-ce que tu as cette relation vivante avec le Seigneur? As-tu déjà, peut-être tu dis, on m'a chassé et on... même pas. Est-ce que tu as déjà posé la question au Seigneur? Peut-être tu as ta propre volonté, tu as ton propre orgueil, tu n'es pas prêt à te soumettre. C'est pour ça que tu puisses examiner ta vie. Nous voulons conclure en priant. Seigneur, nous te remercions que tu nous aies accordé et confié quelque chose. Tu nous as donné le meilleur, non pas parce que nous sommes bons, mais parce que tu souhaites que ton royaume grandisse. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, nous te prions que tu ne te lasses pas de ta vigne, de cette vigne. Que là où tu dois encore tailler, même si c'est douloureux, que tu puisses le faire. Parce que Seigneur, tu dis, pour porter du fruit, il nous faut être taillé. Il faut que des choses soient enlevées dans nos vies. Et accorde-nous, Seigneur, que nous puissions être prêts à l'accepter. Afin que des fruits puissent être portés dans nos vies comme toi, Seigneur, tu l'as envisagé, tu l'as attendu dans nos vies. Et que lorsque tu nous visites personnellement, que tu puisses te réjouir, être dans la joie en voyant les fruits abondants qui sont portés. Que nous ne lâchions pas, Seigneur, même dans la difficulté, même si c'est difficile. Seigneur, c'est à ce moment-là que nous recevons la force que tu nous donnes, parce qu'à ce moment-là, nous devons nous confier en toi. Seigneur, garde et prends soin de ta vigne, Seigneur, s'il te plaît. Par ta grâce. Amen.